Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abras le corps.
Bonjour à tous, bienvenue dans le cycle des rapports aux maternités du podcast Abras le corps pour cette deuxième partie autour du thème de l'avortement. Maintenant que je vous ai partagé un peu la restitution de mes recherches, je vous propose de vous plonger dans les savoirs chauds, comme on dit en éducation populaire. Cela par le biais de témoignages de personnes concernées. Pour certaines personnes comme Adèle, le fait d'avorter peut être fait avec un certain regret. Dans son témoignage, vous allez entendre qu'elle le présente surtout comme un choix rationnel par rapport à sa vie du moment, sans que cela soit incompatible avec une certaine projection et un attachement à son début de grossesse. Comme elle le raconte dans son témoignage, indépendamment de la décision qui s'ensuit, le fait de vivre une grossesse peut également avoir des effets physiologiques, physiques, émotionnels, très fatigants. Il est également intéressant de l'entendre témoigner des différences de point de vue entre elle et son partenaire au moment de la décision. Le sujet des projections et des préférences des partenaires est souvent assez tabou d'un point de vue féministe. Cela s'explique par le besoin politique d'affirmer le choix comme étant avant tout celui de la personne enceinte. Cette nécessité est toujours d'actualité. Il est bien entendu primordial que la décision reste entre les mains des personnes vivant la grossesse, puisqu'il s'agit avant tout de leur corps, et que dans le cas d'une poursuite de grossesse donnant lieu à l'accouchement, ce sont ces personnes-là qui se retrouvent juridiquement les premières responsables de l'enfant mis au monde. Toutefois, l'imaginaire de la maternité, et même les injonctions ou les désirs de filiation, ne touchent pas uniquement les personnes en capacité d'enfanter. Et même lorsque la décision est prise et certaine, elle est néanmoins très souvent discutée entre les deux personnes à l'origine de la grossesse et la décision peut de fait impacter le ou la partenaire extérieur. Que cette personne ne puisse avoir le dernier mot ne signifie pas qu'elle ne peut pas ressentir une forme d'impuissance, d'injustice, qu'elle n'ait pas d'avis sur la chose. Lui interdire d'imposer sa vision des choses n'empêchera pas à celle-ci de persister et comme dans la plupart des situations de la vie, le réfrénement, voire le rejet de ses ressentis et de ses émotions, peut nuire à l'équilibre de chacun chacune des partenaires, voire à leur éventuelle relation. Ainsi, dans un monde idéal, on pourrait imaginer des espaces prévus pour recueillir les ressentis des partenaires ou des formes de médiation pour que cela ne soit pas à la charge de l'un ou l'une ou l'autre de porter et d'affronter cela seul. Adresser cette question était notamment l'objet du documentaire « La place de l'homme » de Colline Grandeau, interviewée par Victoire Tuaillon dans Les couilles sur la table. Comme le montre son titre, le documentaire reste très hétérocis normé. Néanmoins, il permet de libérer une parole sans tomber dans le male tears, invitant plutôt les partenaires interviewés, tous des hommes cis hétéros donc, à se réengager dans une forme de responsabilité et de déconstruction des imaginaires de maternité, de charge sur les personnes assignées femmes, etc. Dans le cas d'Adèle, le vécu et le ressenti de son partenaire ont été compliqués à appréhender et à articuler avec sa décision. Au-delà d'une simple différence de préférence ou de point de vue, le récit d'Adèle met en exergue l'importance que revêt parfois les différences de trajectoire personnelle, notamment d'héritages familiaux et culturels. Cette question est rarement prise en compte pour éclairer les différences de vécu en matière d'avortement. Je vous laisse désormais écouter son témoignage.
Pour moi, en tout cas, chaque élément a son importance. Mais après, c'est une expérience très subjective, donc je pense que c'est important que, voilà, que tu saches un petit peu certains détails et tout. J'ai 22 ans, je suis en master de psycho à Strasbourg et j'ai fait ma licence, j'ai fait une année de césure entre ma licence et mon master et en licence j'étais à Toulouse. Donc en fait ma troisième année de licence de psycho elle a été assez hard parce que il y avait une grosse sélection et tout. Donc là j'avais pas de copain, rien du tout. Puis en fait à la fin de cette année j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait
Weasley
et en fait on se voyait quoi, on était comme si on était ensemble mais on n'était pas vraiment en couple mais on se voyait régulièrement et tout. Et en fait ça s'est passé quand est-ce c'était l'été 2019, donc il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, où en fait, moi je prenais pas de contraception parce que la pilule, ça me convenait pas du tout. J'avais essayé de prendre le stéroïde au cuivre, mais c'était pas possible, enfin bref. Donc j'avais pas de contraception, donc on utilisait régulièrement les préservatifs, et avec mon copain de l'époque, du coup, enfin le gars que je voyais. Et sauf que il est arrivé une ou deux fois que ça passe un peu à la trappe quoi. On n'a pas été sur ça, on n'a pas été hyper prudent, c'est vrai. Et en fait, alors attends, faut que je me remémore tout ça. C'est pas facile d'en reparler, c'est la première fois je crois que je décide de témoigner de ça, parce que ça a été un long cheminement pour arriver à aller mieux par rapport à ça. Alors je suis tombée enceinte le 14 juillet, je crois, où en fait, et après ça en fait je savais pas moi du tout ce qui s'était, enfin que j'étais enceinte, donc je suis partie en colonie de vacances, puisque je suis animatrice pour les enfants, les ados et tout. Et vu que je savais que j'avais eu un rapport à risque, en plus de ça, j'avais pris la pilule du lendemain, quelques heures après, donc j'étais plutôt sereine dans le sens où je me suis dit, même si on a eu un rapport un peu à risque, de toute façon, j'ai pris la pilule du lendemain, chose que je ne fais jamais, j'ai dû la prendre une ou deux fois dans ma vie, donc je me suis dit, je pense que ça va faire effet et tout va bien se passer, quoi. Et donc, je pars en colonie de vacances et tout... J'en discutais avec une copine là-bas en lui disant, voilà, j'ai un peu peur, mais bon, je pense que ça craint rien et tout, enfin bref. Après cette colo de 2 semaines, je vais en vacances chez une copine en Creuse, donc je sais pas si tu connais, mais il y a beaucoup de virages. Et dans la voiture, je commence à avoir la nausée, chose que je n'avais pas d'habitude. Donc là, je lui en parle à cette amie, je lui dis, voilà, il s'est passé ça, peut-être que quand même, je devrais faire un test de grossesse et tout. Et moi, j'avais trop honte d'aller l'acheter, du coup, c'est elle qui allait me l'acheter dans une grande surface. Et sauf que du coup je l'ai fait, et en fait j'en ai parlé à mon copain avant de faire le test, je lui ai dit voilà, parce qu'on était en break à cette période là, je lui ai dit je vais faire le test et tout, et je fais le test et il s'avère qu'il est positif, donc là mon copain me rappelle et il me dit alors et tout, donc je suis obligée déjà de lui annoncer au téléphone, ça n'était pas terrible, j'aurais voulu lui dire en face, mais bon, en même temps je me voyais pas lui mentir sur ça, donc je lui ai dit. Donc lui, il était un peu pris de panique, le pauvre. Moi, pareil, j'ai fait clairement presque... Enfin, j'arrivais plus à respirer, j'étais complètement paniquée, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, c'est... Donc ça s'est passé comme ça. Quelques jours après, je suis rentrée à Toulouse, là où j'habitais à cette époque. Et j'ai vu du
coup... Weasley.
Mais lui m'a dit... en fait, lui... Donc moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Et lui en avait 19, bientôt 20, parce qu'en fait il était plus jeune que moi, mais voilà. Et lui me dit, écoute, tu sais, moi mes parents m'ont eu à 19 ans, moi clairement je veux le garder, quoi. Et j'ai tout de suite réagi et je lui ai dit, mais tu rigoles ou quoi, c'est impossible, enfin rends-toi compte, on est complètement instable, on fait tous les deux nos études, on n'a pas de fric, on est trop jeune, c'est pas possible, etc. Je me suis tout de suite un peu... J'ai tout de suite réagi comme ça et tout. Pour moi, c'était inconcevable de garder cet enfant. On était beaucoup trop jeunes. Et puis même dans notre relation, tous les deux, c'était pas possible. Enfin, je veux dire, même si je l'aime énormément, c'était pas forcément la personne avec qui je me voyais avoir des enfants, quoi. Et en fait... après, lui, il vient d'une culture différente aussi. Il est gabonais. Donc il a grandi au Gabon et tout, et c'est vrai que ses parents l'ont eu très tôt, à 18-19 ans je crois, et vu qu'ils étaient trop jeunes, ses parents, il a été confié à ses grands-parents, qui du coup l'ont élevé, donc c'est un rapport différent aussi quoi, genre c'est... Mais bref, moi j'ai réagi comme ça au premier abord, donc à ce moment-là, quand je l'ai appris, j'étais enceinte de 3 semaines, et sauf qu'en fait là s'en est suivi un long déroulement puisque finalement j'ai avorté seulement à 2 mois et demi de grossesse, donc j'ai été enceinte presque 2 mois, enfin 2 mois et demi, mais dont presque 2 mois en le sachant quoi, donc c'est pas facile, c'était vraiment pas simple. Et en fait il y a tout un tas de trucs qui s'est passé à l'intérieur de moi, je me suis dit, donc ça après des jours de réflexion bien sûr, mais je me suis dit, c'est terrible parce que moi, je sais que je veux des enfants. Je sais que je veux vraiment des enfants. J'adore ça. J'ai toujours travaillé avec les enfants. Vraiment, j'adore. Et à la fois, je me sens pas prête. C'est pas ce que je veux offrir à mon enfant. C'est pas les bonnes conditions. Et donc, tout un tas de questionnements comme ça. Donc, j'en ai parlé, j'en ai longuement... c'est des soirées entières à en parler avec
Weasley.
J'en ai parlé à mes amis. J'ai fini par en parler à ma mère parce que En plus, c'était l'été et c'était compliqué pour moi parce que j'avais plus de thunes, j'avais plus d'appart fin août, je trouvais pas de taf pour début septembre parce que c'était mon année de césure. Enfin bref, c'était hyper compliqué avec
Weasley.
C'était très compliqué parce que même si on n'en parle pas beaucoup, je pense, pour les femmes qui avortent, mais j'étais enceinte, quoi. Donc c'est sûr que moi, j'ai vraiment, je me suis coltinée tous les trucs chiant, quoi. Genre, j'avais la nausée, j'avais les hormones en vrac, j'avais tous mes sens qui étaient exacerbés, j'étais extrêmement irritable, j'avais tout, quoi. Genre, sans parler des symptômes physiques, mais vraiment sur l'humeur, rien que ça, c'était compliqué à gérer pour moi, quoi. J'avais l'impression clairement d'être une autre personne, quoi, sous l'effet des hormones. Et
Weasley.
Il a été vraiment super, il m'a. Dès que j'ai eu besoin d'en parler, il était là. Et, enfin, il a été vraiment génial, quoi. Il a été super présent, hyper à l'écoute. Et lui aussi, il me parlait de ce qu'il ressentait et tout. Enfin, c'était vraiment super bien, quoi. Il a été parfait, quoi. Hyper patient, alors que moi, des fois, je le repoussais. Des fois, je voulais qu'il soit là. Enfin, j'étais vraiment insupportable, quoi. Et j'ai fini par en parler aussi à ma mère, à mon père, tout ça, à ma famille, parce que je sais qu'ils sont hyper ouverts et... Et puis moi, j'avais des difficultés financières, donc à un moment donné, il fallait bien que j'en parle à ma mère aussi. Et étonnamment, je me disais, oui, elle va certainement me dire que c'est inconcevable de garder un enfant à cet âge-là et tout. Et quand je lui ai dit ça, quand j'ai dit à ma mère, ouais, mais de toute façon, je sais ce que tu penses et tout, elle m'a dit, bah écoute,
Adèle,
je suis extrêmement déçue que tu penses ça de moi parce que c'est pas du tout le cas. Moi, je te fais entièrement confiance et je sais que si tu veux le garder, tu feras le bon choix, le choix qui est le bon pour toi et pour cet enfant. Je te soutiendrai quoi que tu décides et tout, et mon père pareil, mes frères pareil, ils ont été vraiment géniaux, ils m'ont supporté jusqu'au bout, quoi. Après, j'en ai parlé qu'à mes amis proches, parce que c'est quand même un sujet qui est hyper intime, et ils ont tous été super présents, j'ai eu très peu de jugements, même s'il y a eu une ou deux réflexions quand même, où les gens peuvent pas s'empêcher d'émettre un jugement, mais je dirais que même s'ils ont été vachement présents pour moi, pendant toute cette durée-là, malheureusement, et je leur souhaite pas du tout, mais vu qu'ils l'ont pas vécu, ils savent pas en fait ce que c'est. Genre, ils comprenaient pas ma détresse, ils comprenaient pas le désespoir que c'était pour moi de me séparer d'un enfant. Ils comprenaient pas que je puisse hésiter, ils comprenaient pas que pour moi, c'était... Ils comprenaient pas mon chagrin, en fait, de devoir me séparer d'un enfant qui avait grandi à l'intérieur de moi pendant 2 mois et demi. Et je leur en veux pas, parce qu'ils l'ont pas vécu, donc c'est sûr qu'ils peuvent pas vraiment comprendre, malgré toutes leurs bonnes intentions, mais... Sauf que du coup, je me suis sentie... Même si j'étais vachement entourée, au fond, je crois que je me suis sentie un peu seule. Je me suis sentie seule parce que... Personne pouvait vraiment comprendre et personne me posait vraiment de questions et j'avais l'impression que en fait vu que j'allais avorter c'est comme si j'étais pas enceinte vu que j'envisageais d'avorter et que les gens qui étaient au courant le savaient c'est comme si ça n'existait pas en fait comme si bah j'avais pas j'étais pas enceinte en fait je sais pas comment expliquer. Alors que moi j'avais tous ces symptômes et j'avais ce truc qui grandissait à l'intérieur de moi que je sentais enfin et j'étais là mais les gars on peut pas le nier il est là même s'il va rester pas longtemps moi je voulais l'honorer en fait c'est pour ça que pendant ces 2 mois et demi j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de boire j'ai voilà parce que bah même si je savais que j'allais pas forcément le garder bah c'est con mais je l'aimais déjà quoi genre il était là et moi j'étais au fond j'étais un peu heureuse quand même d'être enceinte et j'ai essayé de profiter de ce court moment et donc de le respecter quoi de pas lui faire plus de mal qu'il allait en avoir et donc il y a eu ça et puis s'en est suivi un énorme chagrin en fait enfin je veux dire je savais que l'échéance arrivait que j'allais devoir me séparer de cet enfant et pour moi, c'était un déchirement, quoi, en fait. C'était... Je pleurais, mais à chaudes larmes, pendant des heures et des heures. Je pense qu'il y avait aussi peut-être les hormones qui jouaient, mais malgré tout, en fait, c'était de la tristesse que j'ai ressentie. Vraiment, une tristesse profonde de me séparer de quelque chose dont, au fond, j'ai vraiment envie. Enfin, mais à un moment donné, je me suis dit... En fait, j'ai vraiment dû... En fait, si j'avais écouté mon cœur, je l'aurais gardé. Mais j'ai écouté ma raison parce que j'ai estimé que pour moi, c'était pas le bon choix. Enfin, parce que moi, j'avais des projets, je voulais voyager, je voulais finir mes études parce que pour moi, c'était extrêmement important. Je voulais accueillir des enfants dans un cadre stable, avec une famille aussi, parce que moi, j'ai pas vraiment grandi avec mon père. Donc, c'était pas des conditions pour moi qui étaient assez bien pour cet enfant. Donc c'était pour moi que j'ai fait ça, mais c'est aussi pour lui, je pense, dans un sens, parce que c'est pas ce que je rêvais pour lui, quoi. Et donc voilà, puis en plus c'était un peu lourd, parce que il y a beaucoup d'examens médicaux, d'abord je suis allée au planning familial, qui m'a redirigée au centre de planification, au truc de dépistage et tout là, pour faire les tests, pour savoir si j'étais enceinte, pour machin. Après, il y a eu 2 entretiens, je crois, avec une assistante sociale pour discuter. Après, il y a eu les prises de sang. Il y a eu les rendez-vous avec la sage-femme, l'anesthésiste, machin. Parce que moi, je l'ai fait, vu que c'était assez tard, je l'ai fait à l'hôpital sous anesthésie générale, pardon. Donc il y a eu tous ces rendez-vous médicaux. En plus, moi je suis pas hyper fan de tout ce qui est hôpitaux et tout ce qui est médical, donc ça a été aussi compliqué, mais... Et du coup, ça aussi c'est lourd, c'était lourd. Et puis finalement, le jour de l'avortement, j'y suis allée avec ma mère, parce que...
Weasley.
Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais des hommes aussi dans ces situations-là. Parce qu'il était effondré. Il était effondré de chagrin. Il était super mal. Et en fait, il tenait bon parce qu'il savait que moi, j'avais besoin qu'il tienne bon. Mais au final, je sais qu'il le vivait aussi mal, voire plus mal que moi. Et même si on peut pas nier que physiquement, c'est moi qui vivais l'expérience, lui, et ça, je l'ai appris qu'après, en rediscutant beaucoup avec lui, en fait, il l'a vécu comme une injustice. Il a l'impression que... que c'était un choix par défaut, quoi, parce qu'il allait pas m'imposer quoi que ce soit, mais que si lui s'était écouté, c'est pareil, il l'aurait gardé. Surtout que lui, du coup, comme je disais, il vient d'une famille au Gabon, et là-bas, il a des cousins, cousines qui, à 18 ans, même avant, ont déjà des enfants et fondent une famille et tout. Sauf que lui, bah, il a été un peu choisi par sa famille pour aller en France. Enfin, il est d'abord passé par le Maroc et après en France pour étudier et gagner de l'argent et réussir et envoyer de l'argent à sa famille, quoi. Donc il trouvait ça extrêmement injuste que certains de sa famille, qui sont parfois plus jeunes que lui, soient légitimes à fonder une famille, tandis que lui, il en a été privé, quoi. Donc, et c'est pour ça que j'ai choisi d'y aller avec ma mère, parce que déjà j'ai très peur des hôpitaux. Et je savais que
Weasley ne
serait pas d'une grande aide, parce que s'il me voyait mal, il aurait été mal aussi. Donc je me suis dit que voilà, ma mère, on a une relation, on est très très proches. Et je pense que ça a été un peu mon objet contraphobique, c'est-à-dire qu'elle était là pour m'empêcher d'avoir peur, quoi. Genre. Donc ça, voilà. Du coup, le jour même, ça a été difficile pour moi, dans le sens où j'aime pas trop les anesthésies générales, ce genre de choses, ça me fait toujours un peu flipper. Donc je pleurais, et les soignants, ils ont été adorables, vraiment, ils ont été hyper chaleureux, hyper, vraiment super. Ça, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Vraiment, tout le long, j'ai été vraiment bien accompagnée, que ce soit ma famille, mes amis, le personnel soignant et tout, même si c'est une épreuve difficile. Je crois que j'aurais pas pu être mieux accompagnée, quoi. Enfin, c'est vraiment... J'ai eu énormément de chance. Je sais que dans le monde, et même en France, il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas le droit aux mêmes conditions pour avorter, quoi. Et ça, je trouve ça dramatique. Mais voilà, ça s'est passé. En plus de ça, ils m'ont posé aussi un stérilet en même temps. Et je me rappelle qu'en salle de réveil je pleurais, et là il y a un soignant qui est venu me voir et qui m'a pris la main et qui m'a dit: allez, maintenant il faut regarder de l'avant et tout. Alors moi, je savais même pas qu'il savait pourquoi j'étais là, et cette phrase, elle m'a vraiment marquée, parce que je sais pas, elle est un peu bateau, cette phrase, mais à la fois j'ai trouvé ça hyper touchant que bah, qui viennent me voir et qui comprennent que ouais, c'est difficile et maintenant il faut regarder devant quoi. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a vraiment marqué. Donc voilà, et puis après il s'en est suivi quelques jours, enfin quelques jours et quelques mois, mais ça c'était plus à cause du stérilet, mais quelques jours très douloureux où j'ai beaucoup saigné et tout. Enfin désolée pour les détails, mais c'était extrêmement douloureux. Et même mentalement, c'était compliqué parce que du coup, grosse chute d'hormones. Mais voilà. Et puis en fait, un mois après ça, je suis partie travailler en Allemagne en tant que jeune fille au père. Donc en plus avec trois enfants, dont un bébé et tout. Donc ça, ça a été un peu bizarre aussi. Mais en fait, je pense qu'un mois, ça m'a pas suffi pour m'en remettre. Du coup, quand je suis rentrée d'Allemagne, où l'Allemagne, j'étais à fond, j'avais pas le temps d'y penser et tout. Et en fait, quand je suis rentrée d'Allemagne... là, j'ai eu un gros contre-coup, mais vraiment, où genre là, alors que ça faisait déjà plusieurs mois, quoi, enfin, ça faisait 8 mois, 9 mois, je sais pas, un truc comme ça. Gros contre-coup, super difficile, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi ça passe pas, quoi? Pourquoi j'arrive pas à digérer ça? Je veux dire, même si certaines femmes sont sûrement très sûres d'elles, elles hésitent pas une seconde, elles le font, voilà... de manière détachée, je doute pas hein, qu'il y a des femmes pour qui ça se passe plutôt bien, ou en tout cas le mieux que ça pourrait. Mais je pense que c'est pas du tout un acte ordinaire, un acte banal, et je pense que ça peut être source de beaucoup de souffrance pour beaucoup de femmes. Et voilà, moi ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris bah, ce que c'est de vivre quelque chose que les gens n'ont pas forcément vécu aussi, donc un peu cette solitude. Ça m'a appris... que ouais, parce que du coup j'en ai parlé aux gens autour de moi, et c'est vrai que du coup je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui avaient avorté aussi, enfin, ça m'a permis de parler avec plein de femmes et tout, et ça a ouvert beaucoup de conversations, et c'est... enfin de sujets qui pour moi sont passionnants, parce que je m'intéresse aussi beaucoup au sujet des femmes, du féminisme, de la féminité, de tout ça. Ça a ouvert vraiment des conversations passionnantes, mais je me rends compte que... Ouais, ça laisse des traces, quoi. C'est pas un acte anodin. Et comme me disait une femme avec qui j'en parlais, elle me disait, oui, mais tu vois, t'as dit non à cet enfant, mais t'as dit oui à toi. C'est-à-dire que, certes, tu as renoncé à quelque chose, mais il faut que tu vois aussi ce à quoi tu as dit oui en disant non, justement. Et c'est vrai que j'ai dit oui à continuer à vivre mes expériences, j'ai dit oui à avoir un enfant dans de meilleures conditions, j'ai dit oui à plein d'autres choses finalement, en disant non à cet enfant, enfin non, en refusant d'avoir cet enfant maintenant quoi. Et ça m'a un peu aidée ouais, à passer à autre chose, mais en fait, mais aujourd'hui je me dis que cet enfant il aura toujours une place pour moi, c'est-à-dire que je suis pas croyante, mais c'est un peu spirituel, c'est que ben il a une courte existence, on va dire, mais pour moi il existe pour moi en tout cas. Il a pas existé pour les autres, mais pour moi il a existé et il aura toujours sa place. C'est-à-dire que ben, pour moi c'est la première fois que j'ai été enceinte, et même si ça a été ça s'est fini avec un avortement, pour moi ça a sa place dans ma tête et c'est important, en tout cas pour moi, de lui faire une place dans ma tête. Et puis même si aujourd'hui je suis plus avec l'homme dont je suis tombée enceinte, on est plutôt en bon terme et on en reparle souvent, enfin je veux dire, c'est lui parfois aussi qui m'en reparle, qui ressent le besoin d'en parler, qui me dit que ouais, encore aujourd'hui, c'est pas simple pour lui non plus, et je trouve ça bien qu'il arrive à exprimer ce qu'il ressent par rapport à ça, parce que je pense que les hommes là-dedans, certes, ils sont pas impliqués au niveau du corps, mais ils sont extrêmement impliqués psychiquement, et puis ouais, c'est un soutien, enfin c'est... Non, enfin en tout cas, moi, dans mon expérience, il a eu une place énorme... Et donc voilà. Donc je pense que avec le recul, je peux dire que c'est pour moi ça s'est bien passé au niveau matériel, au niveau de mon entourage, mais que parfois il y a eu des choses un peu difficiles, par exemple des propos. Moi j'ai des copines qui m'ont dit des trucs du genre Ah oui, une copine qui m'a dit, mais des choses qui m'ont fait tellement de mal, mais tellement de mal. Et une copine qui m'a dit, parce que moi, pendant l'échographie, j'ai voulu le voir. Genre, parce que j'avais besoin de le voir, j'avais envie de le voir, le fœtus, enfin l'embryon. Et j'ai raconté ça à une copine, elle m'a dit, ah bon, mais tu l'as regardé et tout, mais je sais pas comment t'as fait, moi, si je l'avais vu, oh là là, mais j'aurais pas pu avorter, hein. Et j'étais là, mais c'est dégueulasse ce que t'es en train de me dire, mais c'est horrible, c'est monstrueux en fait. C'est monstrueux. Genre, je sais pas comment expliquer pourquoi ça m'a fait autant de mal, mais je sais pas, c'est. C'est genre. Déjà, de un, t'es pas à ma place, donc non, tu sais pas ce que tu ferais parce que t'es pas à ma place, alors arrête d'essayer de te mettre à ma place. Et de deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, vu que je l'ai vu et que j'avorte quand même, je suis un monstre en fait? Genre, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, je trouve ça tellement violent en fait. Ou pareil, et c'était récemment là, parce que j'ai revu cette amie récemment, et on parlait justement de l'avortement, enfin de tomber enceinte et tout, mais les gens autour savaient pas que ça m'était arrivé, donc cette amie. Je pense, je sais pas, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas parlé de mon expérience puisqu'ils étaient pas au courant, à part elle. Et elle a dit un truc du genre, ah non mais moi, si je tombe enceinte, je sais pas si je pourrais avorter, nanana et tout. Et pareil, là, plus tard, je l'ai repris, j'ai dit, ouais, mais tu te rends compte de la violence que c'est ce que tu dis? Ça veut dire que, parce que un an avant ça, elle me disait, ah non mais moi, si je tombe enceinte, je peux pas avorter. Puis là, elle me dit, bah, mais moi, si je tombe enceinte, j'avorte. Et j'étais là, mais c'est horrible ce que tu me dis parce que. Bah, t'es pas à ma place. Enfin, tu sais pas ce que c'est, en fait. Genre. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas. J'arrive même pas moi-même à comprendre pourquoi ça m'a énervée à ce point-là, ce qu'elle dit. Mais ouais. Mais il y a eu d'autres choses. Par exemple, un copain qui m'a dit. Ah non, mais quand je lui ai dit, parce qu'en fait je vivais chez lui, qui m'a dit non, mais t'es sérieuse, j'espère que tu vas pas le garder hein, quand même, c'est abusé et tout. Et j'étais là, mais écoute, je te demande pas ton avis en fait, ça me concerne, je crois. Enfin, genre, même mon frère aîné, avec qui je m'entends très bien et qui est adorable et à qui je sais que je peux me confier, il a une réflexion, alors que lui en plus, quand il avait 16 ans, il était avec sa copine et sa copine est tombée enceinte. Donc lui aussi, il sait ce que c'est, vu que, enfin, il sait ce que c'est. En tout cas, sa copine l'a vécu et lui, il l'a très mal vécu aussi. Et du coup, là, il m'a dit, non, mais t'es sérieuse, on est en 2019 et toi, tu tombes enceinte, franchement, alors que t'as tous les moyens pour pas tomber enceinte et tout. Et pareil, je leur en veux pas à tous ces gens, mais c'est des réflexions qui, pour moi, sont d'une extrême violence. Enfin, je veux dire, même ma mère, qui n'a jamais avorté, m'a dit... Quand elle m'a dit, enfin, je lui ai dit, mais tu sais, maman, j'ai pris la pilule du lendemain et tout, machin. Elle m'a dit, mais que tu te sois protégée ou pas, de toute façon, ça arrive toujours. Et puis, qui n'a jamais eu de rapport sexuel ou s'est jamais protégée? Enfin, je veux dire, ça arrive tout le temps. C'est... Et elle m'a tellement déculpabilisée. Et je me suis dit, elle a raison, on a beau tout faire, ça existera toujours. C'est un fait de société, en fait. Genre. On peut l'éviter, je pense qu'on peut, on peut le réduire au maximum en éduquant, en discutant, en parlant de contraception, de tout ça, de machin, en développant aussi la contraception pour les hommes, parce que je veux dire, c'est quand même un poids qu'il n'y a que nous qui portons, nous les femmes, quoi. Et je pense qu'on peut le diminuer, mais c'est un truc qui existera toujours, et heureusement, parce que je veux dire, c'est... complètement injuste que nous on ait à subir la naissance d'un enfant. Enfin, je veux dire, moi je veux pas subir un enfant, je veux au contraire, je veux être là pour lui, je veux l'aimer, je veux le supporter, je veux être voilà. C'était vraiment important pour moi de témoigner parce que je pense que chaque expérience est unique en fait. Enfin, même si on se rejoint avec les femmes qui l'ont vécu, on se rejoint sur certaines choses. Chaque expérience est unique et pour moi mérite d'être racontée.
Sur la question de la place des partenaires, l'expérience de Diane est très différente. Contrairement au copain d'Adèle, son copain, à elle, ne souhaitait pas du tout d'enfant.
Salut, je te fais un petit enregistrement pour te raconter pour ton appel à communication, enfin ton appel à témoignage plutôt, donc mon avortement qui s'est fait en Allemagne il y a 6 mois maintenant. J'espère que le son va être bon. Je vais partir de tes questions parce que, comme je t'ai dit, sinon je risque un peu de partir dans tous les sens. Alors, quelle vision j'avais de l'avortement avant d'y avoir recours? Ben, je savais que c'était possible et c'était pas un énorme tabou. J'ai été élevée dans une école très catho, mais je viens pas d'une famille particulièrement religieuse. Donc voilà, je sais que ma mère y a eu recours une fois dans sa vie. Elle m'en a parlé, on en a pas mal parlé quand j'étais ado. Voilà, donc ça a toujours été une possibilité, puisque voilà, j'ai été éduquée à l'idée que femme comme homme, on dispose de son corps. Bon, évidemment, avec dialogue avec les partenaires, voilà, pas de façon complètement égocentrée, égoïste, mais en tout cas, c'était quelque chose de possible. J'ai pas d'amis très proches qui ont eu. Qui ont eu recours à l'avortement. J'ai une camarade de fac avec qui d'ailleurs on avait organisé un séminaire sur le genre il y a presque 10 ans maintenant. Et avec elle, une fois, on avait parlé de ça parce que ça lui était arrivé. Elle avait une histoire d'un soir avec un homme et elle voulait évidemment pas le garder. Donc c'est vrai que. J'imaginais y avoir recours comme une possibilité tout à fait envisageable, mais c'est vrai que celui-là, celui de mars, c'est vrai que, en fait, voilà, je me disais, ben, on avorte quand on est sûr qu'on veut pas, et quand ça s'est passé avec des personnes avec qui on a très peu de contact. Et quand la situation est vraiment pas possible autrement. Donc c'était un recours, mais j'ai jamais non plus pris ça à la légère. J'ai toujours été convaincue que c'était quand même un moment, voilà, difficile, pas anodin, qu'il était important, voilà, d'en parler, de pas garder ça pour soi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été assez sceptique vis-à-vis de discours du type bah voilà, on avorte, ça fait rien, ça change rien, faut pas penser que c'est un traumatisme, etc. Probablement que pour certaines personnes, c'est pas grand-chose, mais je pense quand même que même dans une société qui verrait la chose de façon tout à fait favorable, c'est quand même une transformation dans ton corps. Ça, je me dis, ça a quand même peut-être un impact même sur celles qui sont persuadées qu'elles veulent pas, etc. Donc c'est pas un moment super agréable. Ça me faisait pas particulièrement peur, sachant que j'avais eu des récits qui étaient plutôt positifs, enfin positifs. Ou en tout cas, ça avait pas particulièrement fait mal, ou c'était pas tragique. Mais c'est vrai que j'avais eu le récit de 2 avortements par aspiration, donc par voie médicale. Et moi, j'ai choisi la voie médicamenteuse pas parce que c'était moins cher et parce que c'était ce qui semblait le plus raisonnable au moment où c'est arrivé, puisqu'on était déjà en crise sanitaire. Et que ça aurait voulu dire aussi que bah, j'étais toute seule. À l'hôpital, dans un pays qui n'est pas le mien. Enfin, voilà, je ne me sentais pas à l'aise avec cette idée-là. Alors que, voilà, l'avortement médicamenteux, bah, tu es chez toi, tu peux. Voilà, mon copain était là. On a passé beaucoup de temps ensemble à ce moment-là. Et c'est vrai que la seule fois où il n'était pas là, c'était pour les rendez-vous médicaux, où il y avait les ultrasons, enfin, l'échographie, j'ai trouvé mon mot. Et c'est vrai que ça m'a manqué qu'il soit pas là à ce moment-là. En fait, je me suis dit, mais pourquoi ce serait à moi d'avoir le rendez-vous médical tout seul en face de la gynéco, pourquoi est-ce que lui, il n'est pas là pour voir ce que ça signifie, en fait, pour voir ce que ça fait de voir sur l'échographie un petit point, voilà, comme ça, on sait que c'est dans soi, enfin, voilà, donc c'est peut-être le moment où je me suis sentie le plus seule dans toute cette histoire et que j'ai le moins, enfin, le moins bien vécu. Alors, bah en fait, ça faisait presque... Non, ça faisait un an que j'étais avec mon copain. Donc lui, il est allemand et moi, je viens de Paris. Et pour diverses raisons, j'étais en Allemagne et j'y étais pour un bout de temps parce que j'avais plus d'obligations à Paris. Donc j'ai pris mes dispositions pour être en Allemagne. Et en fait, ça a correspondu avec le début du confinement. Donc... je suis arrivée à mi-février pour vraiment m'installer, quoi, quelques temps. Et puis, bah, on a eu un rapport pas protégé à ce moment-là. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et on n'a pas pensé. Enfin, il n'a pas pensé à se retirer. C'est vrai que je savais qu'il y avait eu un rapport à risque, mais c'était une semaine avant mes règles. J'avais un peu calculé. Je me disais non, quand même, c'est plutôt vers la fin du cycle. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc je ne m'attendais pas vraiment. Et puis, bah, au moment où j'étais censée avoir mes règles, bah, je ne les avais pas. Puis j'ai attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et au bout de 5 jours, bah, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, là, je crois que j'ai un retard de règles important. Donc, il faut qu'on fasse un test parce que c'est quand même très, très probable que je sois enceinte. Il est devenu blanc, vert. Enfin, il n'était vraiment pas bien. Donc, on a fait le test tout de suite. C'était un week-end, un samedi, je crois. Donc voilà, et bah, c'est là où la question s'est posée, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas? Ça faisait donc pas très longtemps qu'on était ensemble, voilà, un an. On est dans 2 pays différents, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, même si on a beaucoup d'affection et qu'on est bien ensemble. Mais on a quand même des dissensions là-dessus, c'est-à-dire que bah, moi je suis un peu plus âgée, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai vraiment depuis quelques années un gros désir d'enfant, ce que je ne pensais pas du tout avoir quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Et lui, il n'est vraiment pas du tout prêt, et même il dit voilà, moi je ne veux pas d'enfant dans ma vie en général. Donc voilà, on en avait déjà parlé, c'était déjà un sujet un peu sensible, et puis là on se retrouve devant ça, donc... C'est vrai que c'était quand même assez dur. Voilà, moi j'étais pas du tout décidée au départ. C'est vrai que, en fait, même si dès que j'ai eu un peu des retards de règles, je me suis dit ben il y a quelque chose qui va pas. Ça devrait être là maintenant mes règles et donc en fait je suis enceinte, c'est sûr. Mais entre la différence entre quand tu sais vraiment, c'est-à-dire le test est positif et tu le sais, et en fait, j'ai l'impression un peu fatalement, tu te regardes différemment, tu dis, ah bon, il y a une vie qui est en train de se développer dans mon ventre, il y a un truc là, c'est une moitié de lui, une moitié de moi. Et en fait, j'étais vraiment au départ pour le garder parce que j'étais trop curieuse de savoir, bah voilà, il va ressembler à quoi cet enfant, c'est un homme que j'aime, c'est une production, c'est une création de nous deux. Et c'est vrai que sa réaction tout de suite de dire non, 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 était vraiment assez dure pour moi. Enfin, on s'est disputé, on a pas mal pleuré. Bah, on s'est posé les questions, enfin moi je lui ai posé les questions pour moi qui étaient les plus importantes, c'est-à-dire bon mais si je le garde, est-ce que tu me quittes? Est-ce que tu vas quand même aimer cet enfant ou pas? Est-ce que tu vas le reconnaître? Donc c'est quelqu'un de très bien qui me dit bah, je te quitterai pas forcément, mais en tout cas voilà, je le reconnaîtrai et je pense que j'aimerais cet enfant, mais c'est pas sûr qu'on reste ensemble, c'est-à-dire on va rester en contact pour élever cet enfant. Moi je suis une personne responsable et donc j'ai pas envie de te laisser dans la nature toute seule avec un enfant, mais voilà, on sera peut-être pas ensemble parce que moi mon projet c'est pas d'être en couple avec des enfants, donc c'est vrai que bah, il a été très honnête, il m'a dit bah, je sais pas en fait, je peux pas te promettre qu'on restera ensemble, et c'est vrai que bon, c'est un peu là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit bon, c'est quand même plus important pour moi dans la mesure où j'ai pas de, si tu veux, de veto religieux, culturel, enfin Oui, bien sûr, tu arrêtes une vie qui est en train de se développer, mais en même temps, enfin, c'est 3-4 cellules avec, oui, déjà un ADN différent du tien. C'est quelque chose que tu portes et qui n'est pas complètement toi. Donc, c'est sûr que c'est pas pareil que je sais pas moi, d'enlever un morceau de chair ou de. J'en sais rien, de couper un doigt, ou enfin. C'est pas uniquement toi, ta vie à toi, et en même temps, bah, c'est complètement ta vie à toi, parce que c'est en toi, parce que ensuite, bah, il va falloir s'en occuper, c'est un peu pour toujours. Et puis, il faut penser à son bien-être aussi, c'est-à-dire, ben, on n'est pas. On se connaît pas depuis très longtemps, on est dans deux pays différents. Moi, j'ai aussi ma vie professionnelle qui est quand même importante, je suis en train d'écrire ma thèse. Alors, bah. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, j'ai des raisons aussi très égoïstes de le garder. C'est-à-dire, ça me fera quelque chose d'intéressant dans la vie. Enfin, c'est horrible peut-être à dire, mais j'ai vu ça un peu comme une sorte de porte de sortie de, ah bah, ça va donner à ma vie un peu un sens parce que je vais devoir m'occuper de quelqu'un. Et en même temps, tout de suite, immédiatement, je me dis, oui, mais en fait, c'est une très mauvaise raison pour avoir des enfants. En fait, on n'a pas des enfants pour ça. On a des enfants dans un projet de vie et pas uniquement pour. Pour compenser quelque chose ou voilà. Et puis même si je me sens prête à être maman, je me sens prête à élever des enfants, c'était pas le moment. En fait, j'ai senti instinctivement que c'était vraiment pas le bon moment. Et puis quelque part, c'était un peu bah, mon amoureux ou l'enfant, même si. Enfin, ça, c'était moi qui l'ai interprété. C'est-à-dire, lui m'a pas mis d'ultimatum, il m'a pas dit, écoute, c'est moi ou lui. Pas du tout. Il m'a dit, moi, je respecterai ta décision, mais il faut aussi que tu entendes que, voilà, moi, penser à avoir un enfant là maintenant, ça me donne des maux de cœur, j'ai la nausée. Enfin, il était vraiment physiquement pas bien, quoi, parce que ça le touchait beaucoup. Ah oui, et tu me parles de l'expérience du soutien en ligne. Oui, alors en fait, c'est un groupe Facebook qui s'appelle Les Berlineuses. Et bon, c'est un groupe que je sais être très, très safe. Voilà, il n'y a pratiquement que des femmes. Et les posts sont toujours très bienveillants, les commentaires aussi. Enfin, c'est vraiment une communauté pour se soutenir et qui n'est pas du tout fermée sur elle-même. Il n'y a pas un petit groupe qui commente et personne d'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment, je trouve, un lieu que. Qui moi était rassurant pour moi et donc je me suis dit bah en fait plutôt que de chercher sur internet un peu à l'aveugle pour savoir ce qu'il fallait faire je vais écrire sur ce groupe notamment parce que je sais que voilà en Allemagne contrairement à la France donc déjà c'est pas remboursé par la sécurité sociale ou très peu mais surtout le plus important c'est qu'il y a des médecins qui refusent enfin il y a beaucoup de médecins en fait pour des raisons religieuses ou culturelles qui refusent de pratiquer c'est beaucoup plus strictement encadré qu'en France. Le nombre de semaines est réduit. Il faut passer par un entretien semi-assistante sociale, psychologue, pour avoir le droit d'avorter. Il y a obligatoirement 3 jours de réflexion avant de pouvoir prendre les médicaments ou d'aller à l'hôpital pour faire l'opération. Donc j'étais un peu. En fait, j'avais aucune envie de passer des heures à regarder des sites anonymes pour avoir des informations, etc. Je me suis dit, le plus simple, en fait, c'est de faire appel à cette communauté de femmes qui, probablement, voilà, je suis pas la première à qui ça arrive. Et donc, plutôt que de chercher un peu à l'aveugle comme ça sur Internet, je vais faire cette demande. Et ça a été extrêmement bien reçu, c'est-à-dire que j'ai eu zéro commentaire de « mais quand même, t'es une femme indigne, il faut garder ses enfants, etc. » Mais pas non plus de commentaires larmoyants, « je suis vraiment désolée pour toi » ou alors « vas-y, fais-le, on est féministes et tout ». En fait, c'était assez neutre. Bon, beaucoup de soutien. Il y a pas mal de femmes qui sont venues me parler en message privé pour me donner des informations et pour expliquer de façon un peu plus voilà, de personnelle. Mais j'ai eu aussi également beaucoup, beaucoup de commentaires simplement avec bah, écoute, moi je suis allée chez tel médecin, il est bien, voilà, je le recommande. ou bah, ma copine récemment ça lui est arrivé, elle est allée là, etc. Et puis il y a eu quelques témoignages aussi de lieux à ne pas à ne pas fréquenter, des médecins voilà, qui refusent, ou alors des endroits où les femmes ont été très mal reçues, et où vraiment il y avait un regard très culpabilisant sur elles vis-à-vis de cette décision, ou qui essayait de les faire changer d'avis. Donc ça m'a permis de faire le choix de l'endroit où je voulais le faire. Et c'est allé assez vite en fait. Et puis dans le processus de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ça m'a vraiment aidé de pouvoir discuter avec des femmes que je ne connais pas, mais qui ont été dans cette situation-là et qui sont là pour m'écouter. Et surtout de ne pas avoir une interlocutrice unique. C'est-à-dire, bah, évidemment, j'en ai parlé à mes meilleures amies, femmes comme hommes, à ma famille, à ma mère, à ma sœur. Mais quelque part, j'avais besoin aussi, j'ai trouvé très réconfortant le fait d'avoir une communauté à la fois anonyme et en même temps avec des personnes avec qui on peut discuter, voilà, sur Messenger. C'était un bon. Comment dire? Une bonne compensation par rapport au discours, bah voilà, forcément très personnel, de personnes que j'avais au téléphone, qui me connaissent très bien, comme ma meilleure amie ou ma mère, et avec qui je pouvais parler plutôt de la dimension, voilà, personnelle dans ma vie, là maintenant, avec mon copain, comment ça se passe. J'ai eu besoin des deux, et vraiment les deux, ça m'a énormément aidée. Et en fait, si tu veux, cette communauté de femmes, elle m'a un peu accompagnée. C'est-à-dire que j'ai fait des, enfin, j'ai modifié mon poste en disant, bah voilà, j'ai décidé d'aller là. Voilà, aujourd'hui, ça s'est fait. Et puis les remercier aussi énormément, chacune individuellement par message, mais aussi via le poste. Voilà, je pense que ça m'a aidée à sur ce chemin-là. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ce réseau social-là, ce groupe-là, parce que je pense que, enfin, j'aurais pas, je me serais pas sentie à l'aise de chercher juste pour ça un groupe type les femmes qui ont avorté ou je cherche un endroit où me faire avorter, enfin. Je pense que j'aurais pas été à l'aise de chercher une relation avec des personnes inconnues uniquement sur la base de bah, on a eu la même expérience ou on va potentiellement avoir la même expérience. Et je pense que notamment étant plus jeune, j'aurais pas forcément su vers qui me tourner en termes de groupe de soutien. Bon, en même temps. Si j'avais été en France, peut-être le planning familial, peut-être j'aurais pu voir des amis. Enfin, la situation était spéciale parce que tout ça s'est fait en ligne et par téléphone. Enfin, j'ai pas pu voir ma famille, j'ai pas pu avoir de discussion en face avec des amis, etc. La seule personne avec qui j'ai discuté en face, c'était mon amoureux. Et c'était aussi la période du lockdown. Donc, bah, lui, il travaillait à la maison. Alors, d'habitude, il n'est pas tout le temps là. Moi aussi, j'étais enfermée à la maison. Enfin. Il y avait toute cette incertitude vraiment qui pesait et qui me faisait dire aussi que voilà, je voulais pas mettre un enfant au monde dans cette situation, que dans 9 mois on ne sait pas où est-ce qu'on va en être, on ne sait pas si les frontières vont être fermées, si je vais pouvoir revenir en Allemagne, si lui pourrait venir en France. Enfin, et puis bon, on a de la chance tous les deux professionnellement, on n'a pas gravement souffert de la crise sanitaire, économiquement, professionnellement, mais malgré tout. Voilà, je me suis dit, je veux des enfants, mais je veux aussi qu'ils arrivent dans une situation et familiale, et sociale, et économique où bah, c'est peut-être un petit peu plus normal. Mais en même temps, voilà, mon copain était très soutenant, il est venu au rendez-vous et à chaque fois, il m'a dit, tu sais, en fait, on a des enfants dans toutes les situations, c'est-à-dire même pendant les guerres, même pendant des périodes atroces, et ça ne veut pas dire pour autant que les enfants vont être malheureux, ou ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être des mauvais parents. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un vrai choix, parce que à la fois il a été très sincère sur lui, que ça lui faisait énormément peur, qu'il n'était pas prêt, qu'il ne voulait pas, mais en même temps il m'a dit, écoute, c'est ton corps et quoi qu'il arrive, c'est indépendant de moi ce que je veux. Bon, j'en parle de façon tranquille là maintenant, mais c'est vrai que c'est quand même assez dur. Surtout que une fois la première échographie faite, en fait, donc il y a un rendez-vous d'abord avec une ou un conseiller social, assistant social. Et en fait, ça s'est fait par téléphone parce que bah, on était au moment du corona et donc c'était pas possible de voir les gens en face, à part les médecins. Et à partir du moment où j'ai fait la première échographie, 3 jours après, donc le rendez-vous par téléphone qui m'a accordé la possibilité de le faire, c'est seulement au deuxième rendez-vous que j'ai pris le médicament. Donc le premier rendez-vous, en fait, c'était vraiment, ça rendait vraiment les choses réelles. C'est-à-dire que bon, d'accord, t'as fait pipi sur un test, il y a une barre, c'est positif, très bien, mais il y a toujours la possibilité que le test se trompe, il y a toujours la possibilité que, en fait, mais non, mais voilà. Alors qu'une fois qu'on te fait l'échographie, là, ça devient vraiment réel, et c'est là où, pendant les quelques jours qui m'ont séparé ensuite de la prise du premier médicament, donc parce que ça se fait en 2 fois, il y a un premier médicament et ensuite un deuxième que tu prends à la maison. Le premier fait pas du tout mal, le deuxième, ça fait quand même assez mal. Enfin, j'ai pas mal saigné, surtout j'avais très mal au ventre. Enfin, voilà, j'étais pas bien pendant 2 jours. Mais c'est la période en fait entre le premier rendez-vous et la prise du médicament, même si j'avais pris ma décision, c'était vraiment une sorte de période de deuil. Enfin, pendant oui 4-5 jours, je me suis mise un peu à parler à mon ventre, à dire bon bah écoute, c'est pas maintenant, ce sera plus tard peut-être. En fait, ça se met à devenir vraiment réel et on commence à s'attacher. Et je pense que bon, c'est aussi le fait de la période, c'est-à-dire que bah j'étais enfermée chez moi, j'essayais de travailler, j'y arrivais pas. Les studios de sport étaient fermés, à l'extérieur tout était fermé. Enfin, j'ai pas pu du tout me divertir en me disant bah en fait j'ai une vie normale, c'est rien du tout, c'est juste 5 jours. Et puis voilà, j'ai pris cette décision, je le fais. Donc ça favorisait l'introspection. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que bah, c'était dur sur le coup, mais en même temps, je suis contente d'avoir eu la possibilité de prendre ce temps-là aussi pour réfléchir. J'ai beaucoup écrit, j'ai écrit une lettre à la petite crevette. Et puis, j'ai fait des choses avec elle, quoi. Enfin, on est allé se balader dans un parc que j'adore. J'ai fait beaucoup de vélo. Et ça m'a permis en fait une fois que c'était fait, de ne pas regretter, de ne pas m'être dit bon bah j'ai fait ça un peu comment dire. Bah, en fait, ça m'a permis de ne pas avoir de contre-coup tellement. Alors que je pense que dans une situation où j'aurais eu des obligations pro, où j'aurais dû aller donner cours, où j'aurais dû avoir des rendez-vous professionnels, etc. Bon, et puis hop, le jour du rendez-vous arrive, et puis il faut prendre le premier médicament, et en fait, oulala, mais j'ai pas eu le temps de vivre ce moment particulier. Je pense que le fait d'avoir pu le vivre, même si c'était un peu forcé à cause de la situation sanitaire et du confinement et de la fermeture de toute vie sociale. Ça a quand même été bénéfique pour moi sur le long terme, c'est-à-dire que après, pendant l'été, j'ai plus du tout pensé. J'ai pensé un peu, bah, évidemment, parce qu'on fait le calcul rapidement dans sa tête, on se dit, ah bon, bah, si j'avais pas avorté, ce serait maintenant. C'est plutôt, voilà, un peu au terme des 9 mois. Ce qui s'est passé, bon, dans mon cas très personnel, c'est que il se trouve que j'ai trouvé un chat, un petit bébé chat, dans les bois quand je me baladais à côté de chez moi en banlieue parisienne. Bah, j'ai un peu pris ça comme un signe du destin, de bah ok, T'as pas d'enfant maintenant, mais il va falloir que tu t'occupes d'un petit chat. Et puis, je crois que j'ai pas mal investi et ça m'a aussi fait du bien. Et finalement, c'est mieux. C'est mieux parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué. Ça, j'ai des choses à vivre avec mon amoureux avant qu'on ait une famille, si on a un jour une famille. Donc en fait, je me sens moins pressée. Je sais que c'est possible. Ah oui, parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que en fait, on ne faisait pas énormément attention aussi, pour une raison, c'est qu'il y a quelques années, pour d'autres problèmes de santé, j'ai fait plusieurs examens et il y a un médecin qui m'a dit, bon, vous avez les ovaires polykystiques, probablement vous aurez beaucoup de mal à avoir des enfants. Et donc ça m'était un peu resté dans la tête et ça a été aussi une chose assez difficile. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah, en fait, si j'ai les ovaires polykystiques et que là je suis enceinte, bah, il faut que j'en profite. Peut-être ça arrivera pas deux fois, peut-être ça m'arrivera plus jamais. Donc il n'y avait pas seulement le, bah, peut-être que, en fait, comme après ça, on va faire plus attention. J'aurais pas d'enfant avec cet homme-là que j'aime. C'était aussi, bah, moi, dans ma vie de femme à moi, peut-être que c'est la seule chance que j'ai. Et en fait, quand j'ai vu la gynéco et que je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, mais pas du tout, vous avez pas du tout les ovaires polykystiques, il y a juste un ovaire qui est plus gros que l'autre, etc. Mais c'est pas une raison. Enfin, moi, je vois rien d'anormal et donc, du coup, vraiment, vous faites pas de soucis. Donc, c'est bien, en fait, ça m'a permis aussi de savoir que, un, bah, je pouvais tomber enceinte et que ça pouvait très probablement arriver assez facilement, voilà, à l'avenir. Et donc, est-ce que je peux conclure à la fin sur la manière dont j'appréhende aujourd'hui cette expérience et cette décision? Donc, bah, comme je t'ai dit, j'ai pas eu de moment vraiment de regret ou de tristesse. C'est plutôt, il y a, bah, c'était mi-novembre, donc ça aurait été mi-novembre. J'ai un peu pensé, je me suis dit, ah bon, ce serait maintenant et tout. Mais en fait, il s'est passé tellement d'autres choses dans ma vie. On est parti en vacances cet été. J'ai eu beaucoup de choses à régler à la rentrée, voilà, professionnellement et tout ça. Que en fait, je le vis pas du tout comme un manque. En fait, je me dis, ben, ça aurait été sympa. Mais en fait, c'est bien aussi que ça se soit pas fait. J'ai pas de sentiment de regret très fort. Simplement parfois voilà la pensée que ah ça aurait pu être possible mais d'une part je suis jeune j'ai 30 ans si j'ai un enfant à 32 ou à 33 ou même à 36 enfin j'ai encore 10 ans devant moi au moins et même peut-être plus donc je me dis c'était une expérience pas facile mais que j'ai pris une décision que je regrette pas et que surtout, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir été dans une situation où bah, j'avais vraiment le choix en fait, et où c'était pas un choix par défaut, et où je faisais pas un choix parce que la personne allait me larguer si je le gardais. Enfin voilà, je pense que ça m'a fait grandir, ça m'a rendu plus peut-être plus raisonnable. Et donc, ouais, je dirais que maintenant j'ai un rapport apaisé à la chose. Et c'est quand j'ai vu en fait ton appel à témoignage, je me suis dit tout de suite, bah voilà, moi j'ai envie de partager pour que d'autres se sentent rassurés, qu'on peut trouver du soutien, que c'est possible, que après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments vraiment tristes. Pas facile, je pense immédiatement après, c'est-à-dire dans les 2 semaines après, parce qu'il faut pas négliger quand même le fait que bah, on a des hormones qui travaillent. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un gros moment de blues juste après. Mais ça, la gynéco m'a aussi expliqué que bah, c'était normal et c'était d'une certaine manière naturel parce que le corps il envoie plein d'endorphines. Pendant que tu commences une grossesse, et puis pour la supporter quelque part dans les premiers mois, et puis bah, tu coupes en fait cette machine hormonale qui s'est mise en route. Mais le fait qu'elle me l'ait expliqué, même si c'était dur à vivre pendant, je dirais oui, 2, 3 semaines, avec des journées où j'étais vraiment à plat, où je restais dans mon lit, ou même plusieurs fois j'ai pleuré. Mais en fait, je pleurais pas vis-à-vis de la décision, je pleurais plutôt parce que je sentais mon corps qui était fatigué. J'aurais préféré que ça n'arrive pas en premier lieu, c'est-à-dire j'aurais préféré ne pas avoir à prendre ces médicaments pour avorter. C'est plutôt l'impact physique en fait qui m'était dans cette situation-là, de tristesse plutôt que un regret d'ordre psychologique ou moral. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un certain nombre de tes questions. Voilà, bah, en tout cas, merci de m'avoir donné cette possibilité. C'est important pour moi aussi de témoigner parce que je pense que ça fait partie du processus. En tout cas, moi, je le ressentais comme ça. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai pas de honte ni morale, ni éthique, ni rien. Mais que malgré tout, je pense que c'est pas anodin. Je pense que ça va m'aider à avoir le sentiment que voilà, c'est une page qui se tourne et c'est terminé. Surtout que ça aurait dû être. Enfin, j'aurais dû avoir un enfant là maintenant. Je devrais être en train d'allaiter, donc je suis bien contente que ce ne soit pas le cas. Mais ça me permet de finir boucler la boucle. Voilà.
Et oui, j'ai oublié de dire, mais par rapport au post sur le groupe Facebook, ça m'a aussi fait très plaisir d'avoir la possibilité d'aider d'autres femmes dans cette situation, parce que des mois après, en fait, j'ai reçu plusieurs messages espacés, voilà, entre mars et il y a quelques semaines, voilà, de femmes qui m'ont écrit en me disant qu'elles avaient vu mon post, parce que en fait j'ai décidé de ne pas le retirer après, en disant bah écoutez, il y a eu tellement d'échanges sur ce post, de bonnes adresses, etc., de conseils où aller ou ne pas aller, que je pense que ça peut être utile à d'autres. Donc les modératrices ont accepté de le conserver. Et ça m'a permis, voilà, de rendre le soutien et le soin dont j'avais été la bénéficiaire en répondant à toutes les questions qu'on m'envoyait par message. Et bon, la principale question quand même, parce qu'on est en Allemagne, c'est savoir, bon, ça se passe comment en Allemagne concrètement? Ça va être quoi les étapes? À quoi je dois m'attendre? Et je pense que paradoxalement, le fait d'être dans un autre pays, ça fait qu'on se tourne beaucoup plus vers ses compatriotes, alors que peut-être en France, on se dit bah c'est une histoire perso, j'ai pas forcément besoin de le vivre avec une sorte de groupe. Donc voilà, j'étais aussi heureuse de pouvoir rendre ce que j'avais reçu.
Témoignage de Cléo.
J'ai avorté en octobre 2019, donc juste après mes 21 ans. Et ça a été un événement très fort dans ma vie. Enfin, ce type d'événement où on peut voir qu'il y a un avant et un après. Donc pour contextualiser, bah, on est le 2 octobre et j'ai un retard de règles d'une semaine. Donc a priori, rien d'affolant. Mais il y a un truc en fait, j'ai l'impression de sentir que cette fois, c'est pas normal. Et donc je suis avec mon copain depuis presque un an à l'époque et on s'aime d'amour et on fait l'amour régulièrement. Donc j'ai prévenu ma coloc la veille que j'allais faire un test et il est 7h du mat et du coup ben, je vais dans les toilettes pour faire mon affaire. Et test positif. Donc j'ai la tête qui tourne et en fait je reste bloquée sur le petit plus qui s'est affiché sur le test. Donc ma coloc se réveille et je lui montre ce test. Et en fait, je me souviens que le seul truc que j'arrive à dire, c'est putain. Donc on se pose sur la terrasse de notre appart et on fume des clopes pour essayer de capter ce qui se passe. Et j'essaie d'appeler mon copain qui habite à 300 km. Et quand je l'ai, il est dans sa voiture, il est en route pour la fac. On s'appelle à peine 2 minutes et il me dit qu'il arrive chez moi. Il fait demi-tour en fait. Et je me souviens vraiment du vide dans mon cerveau à ce moment-là. C'était impossible d'y réfléchir. Je me souviens que j'avais quelques larmes qui montaient, enfin d'incompréhension j'imagine, mais que vraiment tout était suspendu et surtout tout était vide. Mon copain arrive 2 heures plus tard. On prend rendez-vous chez un médecin Et en attendant, on s'occupe, du coup on va boire des coups. En fait, je me souviens hyper bien de notre réaction à ce moment-là, parce que on essayait vraiment de rationaliser ce qui se passait. On en parlait, on voyait comment on allait pouvoir anticiper ce qui allait se passer. On essayait de... Enfin, on sentait en fait qu'on captait un peu, qu'on était conscient de ce qui s'est joué. Mais en fait, après coup, je me suis rendu compte qu'on rationalisait pas du tout, en fait. Et que c'était pas possible de capter à ce moment-là. Donc on allait à notre rendez-vous chez la médecin. Elle nous a fait les ordonnances et tout le tralala. Et elle nous conseille d'aller voir un psy dans les prochains jours. Histoire qu'en fait, ça nous retombe pas sur la gueule 3 mois plus tard. Histoire qu'on prenne conscience tout de suite de ce qui allait se passer pour qu'on puisse ensuite passer au-dessus. En gros, l'avortement, ça a duré 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles j'ai enchaîné les prises de sang. 3 semaines qui étaient complètement hors du temps, où je flottais. En fait, je captais rien de ce qui se passait et je me souviens juste qu'on était tous les deux et que j'avais le sentiment qu'on avortait tous les deux. L'électrochoc, ça a été l'échographie. Déjà parce que ça évoque tout un imaginaire, les échographies, en fait. Enfin, on attendait dans une salle avec des nanas qui étaient enceintes jusqu'au cou, qui avaient l'air super heureuses. Et nous, on était paralysés par ce qui se passait, en fait. Alors, c'est pas possible qu'on se retrouve là-bas tous les deux. Ça pouvait pas être vrai, en fait. Et je suis rentrée dans la salle et la radiologue m'a demandé joyeusement combien de temps ça faisait qu'elle était enceinte et tout. Et en fait, cet univers, il m'a hyper heurtée. Parce que pour moi, c'était pas joyeux, en fait. Enfin, j'allais pas avoir un enfant, j'allais juste enlever un truc de mon ventre. Et pendant l'écho, impossible de regarder l'écran. Je me souviens d'être allongée et de tenir hyper fort la main de mon copain qui était là, du coup. Et de le regarder hyper fort dans les yeux, j'avais la tête complètement tournée pour surtout pas voir les images. Et je pense que c'est là que j'ai capté qu'il y avait ce qu'il y avait en jeu. En fait, j'avais pas compris jusqu'à là que j'avais un fœtus dans le ventre. Je me souviens que j'ai jamais conscientisé le fait que ce fœtus était un futur enfant. J'ai vraiment séparé le fœtus du potentiel bébé parce que c'était pas du tout une option. Ça a été un peu différent pour mon copain de ce qu'il m'a dit. Parce qu'il m'a raconté qu'une fois dans sa voiture, donc je pense que c'est au moment où il est venu, il a vachement pris conscience que cette chose dans mon ventre pourrait être un bébé et il m'a raconté qu'il s'est mis à s'excuser auprès de lui, à lui dire qu'il était désolé et qu'il pouvait juste pas se permettre d'arriver maintenant ce bébé. Moi je suis persuadée que j'ai pas du tout connecté avec le fait d'être potentiellement mère. Parce que c'était trop tôt et c'était impossible pour moi de me projeter là-dedans. Par contre, j'avais vraiment le sentiment que mon corps m'appartenait plus. Et surtout mon ventre. En fait, mon ventre, c'est comme si c'était un peu détaché du reste de mon corps et qu'il s'était mis à distance tout seul. Et il me dégoûtait un peu. J'avais hâte qu'il parte. Et du coup, le deuxième épisode le plus choquant pour moi, ça a été le moment de l'avortement. Le cadre, en fait, n'était pas du tout propice à se sentir bien, j'ai trouvé. Et en fait, on était quatre, donc les deux nanas qui avortaient et les personnes qui accompagnaient, dans 10 mètres carrés. Du coup, en fait, on était en face et on se regardait. C'était hyper étrange. Et en fait, je sais que ça m'a fait un peu du mal, cette configuration, parce que j'avais l'impression de devoir faire un truc mécanique qui était complètement déconnecté de mon corps. Genre juste aller dans les toilettes, m'insérer 3 pilules dans le vagin et attendre avec un médoc qui shoot... que ça passe, quoi. Je crois qu'on a eu besoin de se créer notre bulle tous les deux pour passer cette étape. On s'est hyper soutenus et on a avorté ensemble. On a passé nos journées au café à jouer à des jeux en attendant les rendez-vous pour penser à autre chose. On n'est pas allé en cours pendant 2 semaines. Et on a senti que c'était une étape difficile qu'il fallait affronter ensemble, en fait. Genre un truc hors sol. Et j'ai l'impression que c'était hyper déconnecté de ce que ça pourrait être, de se questionner de si t'as envie d'être parent ou pas. Enfin, je me suis jamais dit j'ai pas envie d'être mère ou je peux pas être mère maintenant. Jamais, en fait. C'était juste, j'ai 3 semaines devant moi avec un calendrier d'échéance et je suis obligée de passer par là. Et ça va être dur et mon corps ne m'appartient plus. Mais on avait l'horizon de l'échéance, en fait. Et pour moi, il n'y avait que ça.
Témoignage de Léa. Attention, ce témoignage parle d'une relation très toxique.
dans lequel l'avortement prend une place particulière.
Donc, j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui parce que, en fait, à l'époque où je l'ai vécu, où j'ai vécu mon avortement, j'avais jamais lu de témoignage qui parlait frontalement de l'influence malsaine que peut avoir une relation toxique sur ton rapport à la grossesse, à l'avortement, et comment, en fait, dans ta sphère privée intime, tous ces rapports de domination qui existent dans l'espace public peuvent être tellement intenses qu'ils prennent possession de ton corps et jusqu'à t'en déposséder. Et je me dis aujourd'hui qu'après avoir renié et enfoui au fond de moi toute cette histoire, que finalement des personnes peuvent se reconnaître dans tout ou une partie de ce que je peux raconter. Et c'est une façon de dire à ces gens-là, ben, on vous voit, vous existez, votre récit il est valide, vous n'êtes pas seul, puisque finalement, ben, l'avortement, c'est malheureusement ça, c'est une histoire de solitude. Du coup, l'histoire, c'est l'histoire de moi. En 2015, j'avais tout juste 20 ans, et lui, c'était un mec de l'Est, de la France, qui avait bientôt 30 ans. On avait 10 ans d'écart, donc. Et à ce moment-là, on est à Brazzaville, au Congo. Je me sens seule. Et on se côtoie depuis un mois, la plupart du temps, bourré. C'est un élément qui prend son sens plus tard. Et il a une meuf croate depuis 3 mois, qui est repartie dans son pays. Une meuf française depuis presque 10 ans. Dont tu me dis qu'il est séparé, et je sais pas pourquoi, mais malgré ce contexte qui annonce la toxicité du truc, j'ai voulu tout faire pour lui plaire. Et du coup, on est tombé dans l'histoire classique, enfin je suis tombée dans cette histoire classique, où il me rejette, je lui écris, il me rejette, il finit par m'accepter un soir bourré, et puis ainsi de suite quoi. Puis en fait, rapidement, il a commencé à me dire qu'on était en couple, malgré l'instabilité claire et nette avec du recul de notre relation. Mais à côté de ça, il me faisait culpabiliser parce que il me disait que j'étais à l'origine de sa vie complètement décousue, faite de soirées et d'alcool, que j'étais complètement déglinguée. Et il a créé une espèce de dissonance cognitive en moi où, en fait, j'avais l'impression de devoir être celle qui lui offrait de la stabilité, donc du haut de mes 20 ans, d'un côté, mais de l'autre, je devais également être celle qui partageait tous ses vices sans jugement. Inconsciemment, j'ai commencé un peu à me détacher de tous les potes que j'avais pu me faire là-bas. Et à me tourner uniquement que vers lui. De toute façon, il me semble avoir lu que certaines études démontraient le fait qu'être traité, ben, parfois comme une merde et parfois comme une personne géniale, ça fait que tu crées un lien traumatique avec une personne et qu'après, t'es capable de faire n'importe quoi pour rentrer dans la réalité de la personne qui t'oppresse. Donc là, pour mon cas, clairement, c'était « Je suis la femme stable que tu recherches qui va te donner un enfant. » Et d'un autre côté, « Oui, je suis la femme complètement instable que tu recherches avec qui tu vas pouvoir te murger chaque soir et entretenir des liaisons amoureuses à foison. » Je suis rentrée dans cette réalité, quoi. Un jour, j'étais assise dans le bureau de mon médecin généraliste pour une infection urinaire, et il m'a annoncé qu'il avait une bonne nouvelle pour moi et que j'étais enceinte. Voilà. Donc tout s'est mis à tourner dans ma tête et je suis incapable de décrire l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Est-ce que c'était de la joie? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de la colère, de la tristesse? J'en ai franchement aucune idée. Et je pense que c'est là que tout a commencé à merder, parce que je suis sortie de chez le médecin et j'ai appelé ce type que je voyais en lui annonçant la nouvelle. il m'a raccroché au nez en me disant qu'il avait trop de travail et qu'il allait me rappeler dans 10 minutes. Et là, je me suis effondrée. Je me souviens qu'il y avait des gens qui me parlaient dans la rue en me demandant ce qui se passait. J'ai attendu 30 minutes en pleurant sur un trottoir et puis j'ai marché sous un cagnard pas possible. J'ai failli faire 10 malaises avant d'arriver chez lui. Et puis quand il m'a rappelé, il m'a engueulée. Il m'a dit « Oui, comment est-ce que tu peux encore m'appeler pour me raconter tes emmerdes? C'est pas possible, mais Léa, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis il m'a dit qu'il allait rentrer. Puis quand il est rentré, il avait un tout autre ton en fait. Et si j'ose dire, c'était un ton amusé. Et il me disait, bah disons, comment on va annoncer ça aux parents que leur grande fille a un gosse dans le bide? Et c'est là qu'il a commencé à donner un nom à ce que j'avais dans le ventre. Et à me dire que ben, c'était Marcel et puis que c'était son fils. Et il a enchaîné, du coup, sur les boutades qu'il était en train de faire par rapport à mes parents. Puis il leur disait, oui, on n'a qu'à dire qu'on le garde, c'est le petit Marcel. Mais bon, il aura trois jambes vu tout ce que tu fumes et tu bois. Bonne ambiance. Du coup, voilà, pendant que lui, ça le faisait vachement rigoler, ce qui est en train de se passer... Et que il prenait très au sérieux son nouveau rôle de père. Donc, moi, je m'occupais finalement de la réalité, de ce qui était en train de se passer, à savoir de prendre une décision qui serait viable pour le futur. Et franchement, aujourd'hui, je vais pas te cacher que c'était pas une évidence non plus de pas garder cet enfant puisqu'il était tellement rentré dans ma tête avec ces histoires de Marcel que voilà, au quotidien il me disait oui, tu t'imagines là, on serait tous les deux ici, puis on serait en train de balader le petit Marcel dans son landau et je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et puis à côté de ça, ben, je sais pas, moi j'avais 20 ans, quoi. Donc au fond de moi, je savais que c'était une connerie. Et puis quand j'ai annoncé à mes parents, il n'y a même pas eu de question qui se soit posée, quoi. Ça a été billet d'avion, rapatriement en France, et puis on va prendre les mesures nécessaires. Bon, il n'y avait rien d'obligatoire dans tout ça, mais voilà, enfin, j'ai vite été convaincue, quoi. J'ai vite été convaincue, bien que j'ai laissé quand même traîner la chose pendant plusieurs semaines avant de les appeler. Et c'est là quand même que j'ai vraiment ressenti pour la première fois que l'avortement, c'était un vrai droit. Enfin, un vrai luxe en fait, finalement. Puisque... quand je suis allée voir ce fameux médecin généraliste, il m'a quand même proposé de me faire rencontrer une personne qui m'aiderait avec ça. Et je mets des gros guillemets à « m'aiderait ». Puisqu'il faut savoir qu'au Congo, c'est absolument illégal de se faire avorter. Donc on en est encore à l'époque des tricoteuses et tout le tintouin. Récemment, j'ai parlé de tout ça à une amie qui était là au moment où c'est arrivé. Et à l'occasion de ce podcast, forcément. Et elle m'a dit qu'en fait, elle avait été hyper choquée du détachement. Et elle m'a dit de la froideur avec laquelle j'avais vécu tout ça. Et c'est vrai qu'avec du recul, en fait, j'ai très peu de souvenirs de cette époque. Enfin, du moment où je suis rentrée en France, surtout. Et de la prise en charge de l'IVG, même si, voilà, on va pas revenir dessus parce que c'est un autre débat, mais j'ai eu droit aux semaines de réflexion, aux moultes entretiens avec le corps médical. Mais finalement, j'ai comme l'impression d'avoir été un peu l'ombre de moi-même pendant tout ce temps. Genre juste un corps dont le psychisme était complètement dépendant en fait, de ce que ce mec me faisait vivre. Ma tête disait un truc, En fait, non, elle se disait rien, je crois. Elle se disait rien. Juste que quand il était gentil, j'étais heureuse. Quand il était méchant, j'étais malheureuse. Et mon corps, c'était une espèce de navette pour ces émotions qui me faisaient ressentir et rien d'autre. Aujourd'hui, je pense que, par extension, je peux clairement dire que tout ça, ça a eu un vrai impact sur ma vision de moi-même, de mon corps, de mon autonomie et même de ma sexualité, puisque je veux pas d'enfant. C'est quelque chose sur lequel je suis assez certaine, parce que j'ai tellement peur que à nouveau un mec cis vienne prendre possession de mon corps et de redevenir dépendante que c'est inenvisageable. Et d'un point de vue de la sexualité, c'est pareil, c'est cette espèce de goût amer en fait que ça m'a laissé. En fait, j'ai vraiment l'impression que dans l'amour maintenant, il y a cette espèce de travers qui a été bien sûr créé par la société dans laquelle on vit actuellement, mais que finalement, amour et propriété, notamment du corps, et notamment bien sûr celui de la femme, sont intrinsèquement liés.
Témoignage de J. Du coup, je vais parler de ma petite expérience sur l'IVG. Moi, ça s'est passé quand j'avais 18 ans. Je venais à peine d'arriver à la fac dans une autre ville que là où j'étais. Donc, c'était un peu particulier dans le sens où j'avais pas mon entourage, je connaissais personne. Et du coup, c'est peut-être la chose la plus la plus difficile à avoir surmontée, dans le sens où j'étais pas avec mes amis. Mais les personnes qui m'ont accompagnée sont maintenant mes amis, donc comme quoi je pense que c'est quelque chose qui a permis de me rapprocher de certaines personnes. Sinon, j'ai pas vécu ça comme une expérience compliquée. Quand je l'ai appris, je me suis dit, ça arrive, je savais que ça pouvait arriver. J'en avais déjà parlé. J'avais déjà une amie à qui ça a failli arriver. Donc, c'était quelque chose auquel je savais que j'allais. Enfin, c'est pas que je savais que j'allais être confrontée à ça, puisque c'est pas quelque chose qu'on envisage, mais je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver, donc j'ai pas eu trop de mal à me le mettre dans ma tête. C'est juste que je l'ai su un peu tard, je m'en suis rendu compte un peu tard, genre au bout de 2 mois, et je sais plus trop, de 2 mois. Et il y a en fait, t'as le choix soit entre la façon médicamenteuse, soit la façon chirurgicale. Enfin, en gros, c'est une opération. Et moi, je voulais pas du tout faire une opération. Enfin, genre, j'avais la phobie j'ai la phobie un peu des hôpitaux, je pense, comme tout le monde. Donc, j'ai dit tout de suite médicamenteux et tout. Et comme j'étais passée par un planning familial avant, la médecin m'avait bien dit que le fait d'être passée la voir, ça comptait dans le consentement. Et en fait, quand je suis arrivée voir la gynéco à l'hôpital pour programmer en fait la date, elle m'a dit non, ça compte pas, du coup vous êtes hors délai pour la médicamenteuse. Et ça, je me rappelle, ça c'était quelque chose, genre j'ai commencé à chialer devant elle, parce que j'ai dit attendez les gars, déjà c'est compliqué, j'ai essayé de faire tout dans les règles de l'art, mais ça c'est hors de question, genre pour une histoire de loi bidon, d'être à 2 jours de hors délai de médicamenteuse. Je crois que c'est 2 mois et demi, je crois que c'est 12 semaines, je sais plus du tout. Et du coup j'ai pété un peu un câble à ce moment là, c'était un peu compliqué à gérer. Et mais du coup j'ai quand même fait la médicamenteuse et ça a marché. Sur la situation même, c'était pas... c'était douloureux, mais c'était juste douloureux physiquement, c'était pas du tout douloureux mentalement. Enfin, genre, je pense que j'étais assez. Je l'ai vraiment accepté. Enfin, c'était quelque chose qui m'a pas rendu compte. Enfin,
J'ai pas trouvé ça compliqué. L'acte en lui-même, c'était plus ce qui était autour à gérer, puisqu'à 18 ans, on a encore un bébé. Surtout que la personne avec qui je l'avais fait, c'était pas mon copain, c'était quelqu'un qui m'a accompagnée et tout, qui a été hyper chouette, mais c'était pas mon copain. Donc c'était plus ça à gérer, le fait de, tu sais, de pas avoir ta famille, tes amis et tout, de devoir mentir un peu, parce que je me rappelle c'était pendant les vacances scolaires, je devais retourner chez mes parents et j'avais pas osé dire à mes parents, du coup bah en fait c'était le fait d'affronter ça toute seule qui était peut-être compliqué, mais je pense que ça m'a fait énormément grandir. Je dis pas que c'est une expérience à faire, mais je pense que c'est une expérience qui m'a fait énormément grandir et qui m'a fait prendre en indépendance, puisque c'était un choix qui n'est pas anodin. Donc je pense que sur ça, j'ai énormément gagné en maturité. Mais sinon, l'acte en lui-même, j'ai jamais, mais pas une seule fois regretté. J'ai pas une seule fois trouvé le choix, en tout cas, compliqué. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de... C'était obligé. Attendez, je venais de quitter ma ville pour faire des études. En plus, c'était des études payantes. Donc j'étais là, genre hors de question. Enfin, c'était vraiment hors de question. J'avais tout misé sur mes études à ce moment-là. J'avais 18 ans, j'avais pas de copain, j'avais même pas de salaire. Je faisais des petits jobs étudiants. Donc avoir un bébé et l'assumer, hors de question. Donc vraiment, mais genre aucune question. C'est genre, j'ai vu le test. J'ai refait un test au planning familial, j'ai refait un autre test, et j'étais, bah, maintenant, il faut enlever ce truc, voilà. Enfin, c'était vraiment, j'avais vraiment, j'imaginais aucun avenir avec un bébé, mais alors pas du tout. Donc non, le choix n'était vraiment pas compliqué. Donc ça, c'était pour mon ressenti sur cet événement. Et du coup, maintenant, par rapport à tes questions, donc le côté un peu plus idéologie de l'IVG. Alors, attends, je relis. Est-ce que c'est quelque chose auquel j'y pensais souvent? Comme je t'ai dit, pas vraiment. D'un côté, oui. Enfin, j'étais assez ouverte sur la question. Donc, c'était quelque chose qui me rebutait pas. Je pense que toutes les femmes peuvent être confrontées à ça, même si préservatif, même si pilule, même si stérilé, ça peut arriver. Et donc, du coup, c'est quelque chose auquel on doit s'y préparer. La seule chose que je déplore un peu, c'est qu'on ne nous a pas assez préparé, par exemple, dans notre famille. Enfin, moi, je sais que mes parents, ils étaient assez timides à parler ça avec moi. Donc, parler d'IVG, mais pas du tout. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que ça me stressait trop à l'époque, à l'école ou à... Je sais pas, je trouve que c'est quelque chose où on n'est pas assez... on n'est pas assez préparé. Je trouve ça un peu dommage parce que à 18 ans, ou même d'autres filles qui peuvent être confrontées à ça à 15 ans, c'est pas hyper... c'est pas hyper facile parce qu'on doit entreprendre des démarches, aller à l'hôpital, respecter les délais. Donc je trouve qu'en France, on aurait plus nous en parler. Et je déplore un peu, parfois j'entends des choses sur ça, sur l'IVG, qu'on a encore dans le délire religieux. Ça, j'arrive pas du tout encore à comprendre. Est-ce que ça me faisait peur? Pas vraiment. Le seul truc qui s'est dit qui me faisait peur, c'était vraiment si je passais sur la table. Parce que franchement... médicamenteux, c'est simple en vrai, genre tu prends le médicament, t'as mal pendant 2-3 heures je crois. Le seul truc qui est chiant, c'est que tu peux pas fumer, j'avoue que j'avais trop envie de fumer, mais sinon ça me faisait pas peur du tout. Est-ce que j'en parlais avec des gens autour de moi? Ouais, j'en ai parlé, du coup j'en ai parlé avec je pense 2-3 amis que je venais de rencontrer, puisque j'avais pas mes amis proches avec moi. Et j'en ai parlé vraiment ouvertement, je leur ai dit il m'arrive ça en ce moment, j'en ai pas eu besoin vraiment d'en parler dans le sens où de m'exprimer parce que c'était quelque chose qui me faisait mal ou quoi, mais c'était juste j'avais besoin de dire ce qui se passait en ce moment dans ma vie et d'être un peu épaulée quoi, donc c'était plus par rapport à ça. Est-ce que tu en parlais avec des gens? Non. Est-ce que tu veux raconter ensuite comment s'est mis en place ta décision et comment ça s'articule avec tes propres questionnements? Alors ça, j'ai déjà répondu sur le désir ou non d'avoir un enfant. Je t'ai dit à l'époque à 18 ans, mes études c'était carrément prioritaire. Là maintenant, je te parle à 24 ans. J'ai toujours pas envie d'avoir un enfant. Enfin, si ça m'arrivait là encore actuellement, mais ça serait aussi IVG direct, la question se pose. Peut-être que je réfléchirais plus dans le sens où si j'avais... je viens de me séparer, mais si j'avais un copain... Depuis un an et demi, deux ans, forcément, il y a, enfin, tu en parles, tu dois en parler. Si l'autre en veut, ça, je pense que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que la décision ne serait pas aussi simple. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant du tout. Pas maintenant. Je m'imagine pas du tout avec un enfant, même dans 5 ou 10 ans. Je trouve ça trop mignon, les enfants. Vraiment, je les aime trop. Mais assumer des enfants, surtout en ce moment avec ce qui se passe. Non, pas pour moi. Voilà. J'essaye de voir les autres questions. Les autres discussions sur l'avortement sur les réseaux sociaux. Bah, c'est toujours quelque chose qui me touche, pas qui m'émue, mais qui me touche dans le sens où bah, je me sens concernée. Mais j'ai vraiment aucun mal à écouter ou à en parler vraiment. Comme je t'ai dit, c'était quelque chose pas automatique non plus, mais c'était quelque chose que. Enfin, j'ai pas vu de complexité là-dedans. J'en ai parlé à mes proches, j'en ai parlé à ma sœur. J'en ai pas encore parlé avec mes parents, j'avoue. Parce que en fait, c'était plus le côté de pas les décevoir. Et puis là, maintenant, je trouve que c'est un peu trop tard pour en parler. Ça va être en mode, tu nous as menti pendant toutes ces années. Donc, flemme d'avoir ce genre de discussion. Mais ouais, j'en ai parlé grave avec plein de gens. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez et qu'on crée un peu un tabou là-dessus. Et je trouve ça trop dommage parce que, bah, enfin... Déjà, c'est une question que féminine, et je trouve ça trop dommage que les hommes, à chaque fois que tu parles de ce genre de choses, ils sont là genre « Oh, c'est hyper intime !» Mais non, pas du tout, ça peut arriver à tout le monde, ça nous arrive à nous, parce qu'on a un corps qui est fait comme ça, mais on a un utérus, et pas vous. Mais non, c'est une question importante dans la société, et il faut lever le tabou, je pense, dessus. Donc moi, j'ai vraiment aucun mal à en parler. Et donc du coup comment j'appréhende aujourd'hui cette expérience, cette décision, bah vraiment aucun moment de regret ou de tristesse, alors pas du tout, mais pas du tout, jamais de la vie. Encore une fois, comme je t'ai dit, si j'étais à refaire, comment je le referais, mais direct. Parfois si, ça m'est déjà arrivé de me dire, ah putain, imagine, donc là j'ai 24 ans, donc j'avais 18 ans, j'aurais un gamin de 6 ans, mais jamais de la vie. Ça veut dire que ma vie, elle aurait été pas foutue, hein. Je pense qu'il faut pas non plus employer ce terme. Mais elle aurait... Enfin, j'aurais pas été heureuse. J'aurais tellement pas été heureuse. Enfin, je pense, hein. Après, je sais pas, mais... aucun moment de regret, aucun moment de tristesse. Je pense que... Encore une fois, on n'est pas né pour être maman, hein. Même s'il y a des cons qui le pensent aujourd'hui. Je pense que l'instinct maternel, ça se ressent ou ça se ressent pas. Mais perso, j'en ai pas. Donc, non. Si c'était encore à faire, je le referais. Aujourd'hui, 24 ans, je le referais aussi. Et je pense que même 30 ans, je le referai, tu vois. Donc, après, on n'est jamais sûr de... Enfin, de jamais à dire jamais. Mais je pense que c'est une expérience pas si triste que ça. Je pense qu'elle est un peu mentalement bouleversante sur le moment. Parce que, bah, forcément, c'est une question qui est quand même assez importante. C'est on parle de donner la vie ou non. Après... il y a juste un truc qui m'insupporte, c'est déjà les hommes dans d'autres pays ou même en France qui permet d'avoir une critique là-dessus ou de donner leur avis. Ça, par contre, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc ça, j'ai un regard un peu moins apaisé sur la chose. Et voilà, sinon, je pense que j'ai tout dit. Voilà, pour ma petite expérience.
Ces témoignages éclairent également des manières différentes de conceptualiser ce qui se passe dans son corps au moment de la grossesse. Une phrase de Diane m'a particulièrement marquée, lorsqu'elle dit qu'à partir du moment où elle apprend la nouvelle, elle se voit différemment. Cela m'a fait écho à des réflexions que j'ai moi-même eues lorsque j'ai pensé plusieurs fois être peut-être enceinte. J'essayais d'interroger l'intérieur de mon corps, voir si je ressentais des différences. En attendant pendant 48 heures les résultats de ma prise de sang, je me souviens avoir dit à mes amis proches que je ne me sentais pas enceinte, que sans savoir ce que cela pouvait faire, surtout après un délai aussi court, je m'imaginais que, rien qu'hormonalement, j'aurais bien dû ressentir des trucs, une différence, avoir la nausée ou quelque chose, comme dans les films. Finalement, le fait que beaucoup de personnes se rendent compte très tardivement de leur grossesse, voire certaines pas du tout, montre bien que là aussi l'expérience varie beaucoup d'une personne à l'autre. Par contre, le fait de se savoir enceinte semble invoquer immédiatement tout un tas d'imaginaires spécifiques, voire de ressentis. Le fameux effet performatif, dont parle la chercheuse Marie Mathieu. Des études de plus en plus nombreuses montrent la réalité d'impact que peut avoir une idée ou des représentations au sein de nos corps. Émotionnels, croyances et chimie ne sont finalement pas aussi dissociables les uns des autres que nous l'inculque une certaine science et médecine occidentale, le fameux mythe du distinguo corps et esprit. Une fois de plus, cela n'enlève rien à la réalité des ressentis corporels et hormonaux. Mon propos est simplement de rappeler le poids des discours sociaux et des imaginaires culturels, de l'épigénétique également, c'est-à-dire l'étude de l'influence de nos environnements naturels, sociaux, et des émotions qu'ils peuvent provoquer, sur l'expression des gènes, et notamment la transmission héréditaire. Il serait intéressant de se pencher sur des études prenant en compte les différences de parcours familiaux et culturels et de les mettre en relation avec les différences de vécu des avortements. Au-delà de ces différences de contexte, j'ai été très surprise de voir que beaucoup de personnes concernées qui témoignent, y compris des personnes absolument sûres de leur décision, développent néanmoins une forme de dialogue intérieur et semblent avoir eu besoin de projeter une certaine image de ce qui, elles, avaient dans leur ventre. Sans aller tout jusqu'à parler d'un être en formation, beaucoup de ces personnes expliquent avoir eu besoin de conceptualiser la chose comme allant au-delà d'un simple amas de cellules. Encore une fois, le concevoir ou non comme tel appartient à chacun, chacune. J'ai eu d'abord peur que ce type de témoignage puisse être réinstrumentalisé par celles qui se disent pro-vie et que cela m'en rende complice. Je remercie les personnes m'ayant partagé leur témoignage de m'avoir permis de sortir un peu de ma vision si tranchée des choses. C'est vrai qu'au début de ce podcast, j'étais comme à mon habitude de féministe plutôt radicale, dans la team, évitant à tout prix de personnifier ce qui se passe dans l'utérus, parce que sinon, c'est donner du grain à moudre au discours conservateur à la con. Et je pense toujours que c'est l'attitude la plus honnête à adopter en tant que personne extérieure. Mais en réalité, ben oui, parfois, pour certaines personnes, comme pour Adèle par exemple, il y a un rapport particulier qui se crée avec ce qui se passe en soi et un besoin de reconnaître son existence. Lui refuser cela, c'est pour moi tout aussi oppressif et violent que d'imposer à l'inverse à une personne enceinte de voir ce qu'elle a en elle comme vivant et de la pousser à la culpabilité. La BD My Little IVG, qu'on retrouve sur le blog du même nom, m'a permis de me sentir plus à l'aise avec cette manière de nommer ou de personnifier une grossesse. L'autrice de cette BD donne un nom à ce qui caractérise son début de grossesse. Néanmoins, elle met cela sur le même plan que le fait de nommer ses bobos et d'autres choses ou problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Donner un prénom à ce que l'on a en soi, ou une forme d'identité, comme la petite crevette de Diane, ça peut aider, tout comme dans d'autres circonstances, à donner un aspect concret à sa problématique et ses ressentis, sans forcément nous faire passer dans le discours des pro-vie. Il y a une différence entre exprimer un rapport, un ressenti intime et universaliser une expérience pour diffuser son idéologie et encadrer les autres d'un point de vue pseudo-moral. De la même manière, selon les cultures, les croyances, les temps de grossesse, etc., certaines personnes peuvent avoir besoin de passer par un processus de deuil. Pour d'autres, comme J, ce besoin n'est pas présent. Parler de deuil ne veut pas dire là non plus que l'on embrasse le discours des pro-vie. Dans la vie, on ne fait pas que le deuil d'êtres humains. On fait aussi le deuil d'animaux, de maisons, de relations, d'objets, ou même de moments. Et les besoins de deuil varient énormément d'une personne à l'autre. Vous l'aurez compris, j'espère. À mes yeux, le plus important est de respecter les ressentis, besoins et conceptions de chaque personne concernée. À ce titre, il y a pour moi une énorme différence entre les surnoms et personnifications faites par les personnes elles-mêmes sur ce qui se passe en elles et le fait que cette nomination soit faite par une personne extérieure sans même consulter notre volonté ou notre consentement, comme dans le cas de Léa, où c'est son partenaire qui décide unilatéralement de donner un prénom à ce qu'il y a en elle à des fins d'emprise, de moquerie et de rabaissement. Ce que Léa exprime quant à son ressenti de dépossession de soi dans le cadre de cette relation toxique et violente rappelle l'importance de poursuivre nos luttes féministes sur le terrain non seulement de la réappropriation de nos corps, mais également de l'ensemble de nos décisions, de nos perceptions de nous-mêmes et de nos imaginaires en général, contre les stigmates, les injonctions et tout autre type de discours négatifs qu'on nous force constamment à accepter et intérioriser. Ces témoignages m'ont aidé à interroger la signification qu'on peut mettre derrière des termes comme « banal » ou « anodin », souvent rejetés par beaucoup de personnes concernées. À leur écoute, il m'a vraiment semblé que ce qui n'est pas banal, c'est d'une part le contexte et toutes les discussions et questionnements sur les projets de vie, sur nos relations, etc., que la nouvelle de la grossesse peut déclencher. D'autre part, les démarches pré-IVG sont généralement assez lourdes d'un point de vue du temps, des rendez-vous et de tout l'administratif, et cela contribue effectivement à singulariser cette intervention. L'acte en lui-même, qu'il soit médicamenteux ou chirurgical, peut constituer un moment à part, surtout lorsqu'on n'est pas un ou une grande habituée des séjours et des démarches en hôpital. Chacun de ces témoignages fait ressortir un moment particulier plus ou moins bien vécu selon les conditions d'accueil et de prise en charge, et la présence ou l'absence de soutien et de validation extérieure, particulièrement compliquée en ces temps de pandémie. Enfin, il y a bien sûr les questions et les introspections auxquelles amène l'idée de grossesse dans le rapport à son corps, à sa vie, sa sexualité, etc. Selon que la décision soit plus ou moins acceptée par le ou la partenaire et soutenue par les proches, selon le désir ou non d'avoir des enfants par la suite et les connaissances disponibles sur la probabilité de pouvoir entamer un nouveau processus de grossesse ensuite, la décision et le moment de l'IVG peuvent se révéler plus ou moins faciles. Moi, par exemple, parce que je sais que je ne veux pas d'enfants, l'avortement m'est toujours apparu comme la seule voie possible dans le cas où je tomberais enceinte, ce qui, à l'instar de Jim, aurait sûrement évité pas mal de tergiversations et de dilemmes, que les gens extérieurs le comprennent ou pas. Plus généralement, j'ai l'impression que l'ensemble des personnes m'ayant livré leur témoignage ont perçu leur avortement comme un moment à part, à vivre et à accueillir au mieux, bien que cela puisse prendre un temps et des besoins spécifiques très variables selon les contextes et les personnes. J'y explique par exemple avoir eu envie d'en parler sur le moment, lorsque cela est arrivé, pour partager cet événement de son présent, ayant pu limiter son plongeon dans les structures médicales qu'elle craignait, et recourir à un IVG médicamenteux. Elle explique avoir vécu la chose de manière assez simple, et témoigne être rapidement passée à autre chose. Pour beaucoup, partager son expérience avec d'autres personnes qui sont passées par là semble également pouvoir beaucoup aider à démystifier l'acte en lui-même, à trouver des ressources, se sentir moins seule, et vivre donc la chose de manière plus apaisée. C'est ce qu'illustre le témoignage de Diane lorsqu'elle raconte le moment de sororité ressenti via le fameux groupe Facebook. Les espaces d'échange entre concernés, tels qu'on peut les trouver en non-mixité, révèlent une fois de plus leur puissance. Voilà, j'espère que ces analyses et ces témoignages vous auront intéressé, voire fait du bien, que vous ayez ou non déjà effectué un ou des avortements. Pour ma part, ce travail m'a vraiment beaucoup apporté et fait réfléchir. Je n'aurais pas pensé trouver autant de choses à dire sur le sujet. Une fois de plus, quel que soit le point de départ, tout ce qui raccroche à nos rapports au corps en dit long sur la manière dont nous nous construisons individuellement, collectivement, politiquement. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, vos envies, vos réactions, vos ressources ou vos suggestions. Tout ce que vous voulez, que ce soit via Instagram ou à mon adresse mail, tout attaché à bralecorps@riseup.net. En attendant, prenez soin de vous toujours. Et à très vite sur Abra le Corps.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le Corps.